Voilà, maintenant qu'on a vécu un excellent carême avec ce repas pentagruélique, on va essayer de reprendre le cours de nos affaires. Donc ça commence par vous, hein, vous avez la parole. Donc normalement, vous avez, pour ceux qui en ont, soit des remarques, des partages à vivre, soit des questions à poser. Voilà, c'est très libre. On a pour cela une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, quand vous êtes bien réveillé à force de poser des questions, je vous assomme une seconde fois. Je vais essayer d'être clément cet après-midi. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des réflexions après ce qui a été vu ce matin? Je vous écoute.
Alors, on s'est posé la question, quand on rencontre des malades, quelquefois des personnes très handicapées, à tel point qu'on n'y distingue plus le souffle de vie. On rencontre aussi parfois des personnes violentes dans leur démence. Et on s'est posé la question, comment retrouver le souffle de Dieu à travers ces personnes? Et comment y retrouver l'image de Dieu?
Ouais. Alors, je distinguerai d'abord entre la perception qu'on a de l'autre et ce qu'est l'autre. C'est pas parce qu'on, c'est comme quand on dit on va leur redonner leur dignité aux SDF ou des comme ça. On leur redonne pas, ils l'ont sans nous. Vous voyez, de manière très banale, on dit on réduit pas la personne aux actes ou à ce qu'elle donne à voir. Voilà. Et justement, ça me paraît très important de se dire que par-delà ce qui n'est pas selon notre normalité à nous, il y a une normalité divine. C'est cette personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'apparence qu'elle donne, quel que soit l'usage effectif ou non qu'elle a de la raison, cette personne est enfant de Dieu. Et a une dignité exactement la même que la mienne. Exactement la même. Ouais. C'est capital. Et dans tous les débats actuels sur les questions de bioéthique, je vais peut-être vous. Et je me dirais. Vous connaissez Candia, il a écrit Veilleur, dis-moi où en est la nuit, il a un petit livre sur le monde d'aujourd'hui. Il dit arrêtez de vous étonner ce qui arrive. La GPA, je vous rassure, on l'aura. Pas ce coup-ci, mais la prochaine fois, c'est bon. Là, ils vont faire pour les homosexuels la PMA. Ensuite, après, il y aura le principe, c'est évident, c'est programmé tout ça. On aura le principe de dire ben, on n'est pas de discrimination et donc on aura la GPA ensuite. On mettra des verrous, bien sûr, au début pour donner bonne conscience, puis après on fera péter les verrous. Parce que fondamentalement, on n'a pas la même anthropologie. Donc on va dérouler ce qui est de la symptomatique. Voilà. Nous, notre anthropologie dit, et c'est ça, c'est que quelle que soit la personne, qu'elle soit un embryon, qu'elle soit une personne âgée, qu'elle soit en fin de vie, qu'elle soit bien portante, qu'elle soit présidente de la République et tout, tout ça c'est à égalité. C'est exactement au même titre enfant de Dieu. Et eh bien, c'est plus aimé de Dieu, d'une certaine façon, si on peut le dire, parce que c'est petit et ça, c'est pauvre. Dieu s'identifie à tout ce qui est pauvreté, parce que, comme dit Maurice Zindel, il est pauvreté. C'est-à-dire qu'il ne garde rien pour lui, il n'est que don. Voilà. Donc, pour revenir à ces cas de figure que vous décrivez, ça doit nous aider, nous. Alors, c'est déroutant en termes de communication. Quand j'étais des DPS, sur les hôpitaux qu'on a, nous, et c'est en face de chez moi, à la Presqu'île, nous on dit sur le continent, il y a San Salvador, un hôpital où il y a ce qu'on appelait autrefois des monstres. C'est des gens, des personnes réduites au niveau, entre guillemets, végétatif, en termes d'expression. Deux faits qui m'ont marqué. Dans la pastorale de la santé, on fait appel chaque année à un psychologue qui est un type assez extraordinaire et qui fait des formations mais remarquables. Et il est, entre autres, il est psychologue à cet institut, à cet hôpital. Et un jour, il accompagnait deux infirmiers. Je crois qu'il y avait un infirmier puis un élève infirmier, donc voilà, en binôme. Et ils arrivent auprès d'une personne décrite comme je viens de vous le décrire. Et ils font la piqûre et ils partent. Relecture du psychologue. Vous n'avez pas prononcé le nom de la personne, vous ne l'avez pas regardé, vous ne l'avez pas aimé. Vous avez juste piqué. Cette personne est exactement comme vous. Voilà. Après, une autre réflexion, alors c'était quand je rencontrais chaque année toutes les équipes d'aumônerie. Et je les écoutais et j'étais, mais alors, estomaqué par la qualité. Je me disais, mais comment ils font? Pour aller visiter chaque semaine des personnes, je dis bien des personnes, avec lesquelles il n'y a aucun retour apparent. Vous connaissez, hein, vous savez que déjà, une minute de silence auprès d'un malade, vous avez envie de meubler le vide. Parce que le vide, ça nous renvoie à nos vides, ça renvoie à plein de choses, quoi. Et là, chaque semaine, la personne va visiter une personne avec elle, rien apparemment ne se passe. Au bout de 6 mois, il y a eu un clin d'œil, un sourcil qui a bougé. C'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que, oui, selon nos codes à nous de communication, apparemment rien ne se passe. Alors, j'ai peut-être une troisième réflexion que je peux vous faire, c'est que dans mon CV médical, j'ai quelques actes de guerre, si on peut dire, et dont celui d'avoir été réputé inconscient. Et mon père m'a dit, de toute façon, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, si, il y a un tel qui est passé, et un tel a dit telle connerie. C'est moqué de mon corps, que j'ai rapporté après au directeur de service. Et tout était vrai et dans l'ordre, et j'ai oublié personne. Voilà. C'est des réflexions dont je peux vous faire part, qui touchent deux niveaux. Au niveau de la personne, quel que soit son état et mode de communication, selon nos critères de normalité, c'est une personne qui a exactement la même dignité que moi et qui est encore plus sujet d'attention parce que forcément elle est fragile. Et deuxièmement, entre nos modes de communication et les communications réelles, il y a souvent un hiatus entre les deux. Oui. La preuve, c'est que moi j'ai... Et là, je viens de vivre à l'instant, il y a trois semaines, j'ai enterré notre maire adjoint, avec qui je m'entendais super bien. Et j'étais allé voir, j'avais dit à sa femme, il avait une récidive de cancer, elle était venue voir avant Noël. Et je lui ai dit, il était à Marseille, donc je téléphone à sa femme, Dominique, et je lui ai dit, écoute, je dois aller à Marseille, si tu veux, je peux passer le voir. Et puis, je ferai le point samedi avant d'y aller, c'était le dimanche. Donc je lui téléphone. Et puis elle me dit, oui, passe. Et je suis passé, donc le dimanche à 17h30, 18h. Je suis resté, il était complètement inconscient, hein, complètement. Il était en train de partir, il avait le masque de la mort sur lui. Bon. Puis je dis à Dominique, écoute, on n'avait jamais parlé vraiment de foi, même si j'ai marié sa fille, baptisé sa petite fille, même si on était proches, etc. J'ai dit, si tu veux, on peut prendre un temps de prière, et j'ai apporté ce qu'il faut pour donner le sacrement des malades. Et puis l'absolution générale, voilà. Elle me dit oui. Et bien, j'ai dit, mettez-vous autour. Donc, ils ont pris sa fille et elle, ils ont pris chacune la main. Arrive, donc j'explique à Fort de mon expérience d'inconscience, et j'explique à Didier, mon ami, j'ai dit, écoute, voilà ce qu'on va vivre avec toi, avec ta femme, Dominique, et puis Béa, ta fille, voilà. Et puis, on commence à prier, et puis je donne l'absolution générale. Il y a Béa qui me dit, Il me serre la main. Et après, donc on a continué le sacrement des malades et tout, et les deux m'ont dit, depuis ce moment-là, il nous a serré la main jusqu'au bout. 2 heures après, elle m'envoie un texto, il est parti, il était hyper agité, récidive de cancer sous le foie, beaucoup de souffrance, il y a des tuyaux partout, il est le seul homme qui est à la maîtrise de sa vie et tout, de responsabilité au niveau professionnel. Et il a reçu sa grande erreur, il m'a dit, c'est incroyable, il est parti dans une paix incroyable. Voilà, c'est des faits que je vous partage, hein, parce que justement, on n'est pas dans la maîtrise, hein, la raison donne l'illusion de tout maîtriser, il y a une autre part de nous-mêmes qui est au-delà de tout ça, et qui nous donne à entrevoir un réel plus profond. Est-ce que dont je vous ai parlé de l'intelligence, qui nous donne de percevoir ça, ouais. Moi, je ne sais pas si ça répond... Hein. C'est plus des pistes, hein, que je vous donne. Parce que c'est vrai, quand on dit fondamentalement, on a tous la même dignité, oui, on sait intellectuellement, mais de pouvoir donner des faits qui concrètement nous donnent de le toucher, je pense que c'est important. Ouais. Voilà.
Ce matin, là, 2-3, on parlait un petit peu, on échangeait au sujet du rapport avec le malade que nous découvrons en entrant dans une chambre. Et moi, je disais que c'est très, très rare qu'il m'arrive de parler de Jésus, de ma foi, etc. Alors, quelle démarche, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Est-ce que c'est à changer? Parce que je donne la préférence à l'humain. Donc, savoir comment la personne se porte, etc., ce qu'elle endure, etc. Voilà. Alors, comment faire le pas entre l'humain et le spirituel? Donc, en échangeant avec
Voilà.
la personne.
Alors, je fais. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, une première réponse qui est très générale. Quand on m'a posé souvent cette question, quand j'étais des DPS, et je répondais immanquablement, le verbal ne couvre même pas 10% de l'expression. Donc, la vraie question pour moi, ce n'est pas est-ce que j'ai parlé de Dieu, mais est-ce que ma façon d'entrer dans la chambre a parlé de Dieu? Il ne s'agit pas de parler de Dieu, mais de laisser Dieu parler en nous. Quel type de présence j'ai eu avec la personne, premièrement. Deuxièmement, je n'oppose pas humain et spirituel. Pour moi, le spirituel, c'est l'humain parvenu à son fait, quoi, dans ce qu'il y a de plus profond. Et le spirituel, tel que j'ai essayé de vous le définir, bon, ce n'est pas le propos direct de mon intervention, mais c'est de se dire, j'ai fait ça l'autre jour, je ne sais plus si c'était à la cathédrale de Toulon, je leur ai dit, en fort des analyses que j'ai faites, etc., que je vous ai données, le spirituel, je pourrais le définir comme ce besoin irrépressible de chacun de donner sens, comment? Par une relation d'alliance, qui est une rencontre, qui ouvre à une communion et par là une fécondité à recevoir ensemble. Donc là, on est au cœur de l'humain, parce qu'on est au cœur du spirituel. Ouais. J'aime pas la distinction qu'on fait, il y a le spirituel et l'humain. L'humain n'est jamais tant humain que lorsqu'il est spirituel. Voilà. Quand il quitte le spirituel, il laisse son animalité parler. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire entre la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Et d'ailleurs, la vraie question pour les visiteurs de malades, c'est pas ce que j'ai parlé de religion. Comme je vous ai dit, les plus jeunes, ils vont. C'est comme si vous dites dans la 23 côté porte, il faut passer. La DMS a été dépassée, il faut passer en SSR. Bon, vous êtes tous en demande de la santé, vous avez tous compris ce que je disais, j'imagine. Parler de religion à des jeunes, c'est exactement le même fait que ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc la question de la nouvelle, enfin, ça touche au cœur de la nouvelle évangélisation. Pour moi, avec toutes les méthodes qu'on a, on va parler de Jésus et tout, c'est plus un besoin irrépressible de peut-être de se calmer la conscience. Mais pour moi, la véritable évangélisation, c'est se laisser rejoindre et rejoindre. C'est une rencontre. Pas une simple relation, une rencontre. Donc une alliance. Et comment dire, dans la relation, on débouche dans le monde d'aujourd'hui sur l'efficacité. Dans la rencontre, on est ensemble à recevoir une fécondité. Voilà. Alors donc, et en plus, on a le besoin de. Ça rassure, j'ai dit, j'ai réussi, Mara. Hein, j'ai réussi. Parce que j'ai parlé de Jésus. Je finis mon truc quand même, parce que. Voilà. Donc. Pour moi, la vraie question, c'est de se dire, voilà, quelle qualité j'ai de présence à l'autre. Et la vraie question, ce n'est pas de savoir ce que je vais dire, mais prenez la rencontre entre Marie et Élisabeth, pourquoi il y a une telle fécondité? Elle n'est pas venue dire, bon, venir aider sa cousine ou vérifier que ce que j'avais dit était vrai. Ça, on brode, ce n'est pas dans le texte. Ce qu'il y a dans le texte, c'est très clair. C'est que entre l'annonciation qui est la visitation de Dieu dans sa vie, et le consentement qu'elle y a fait, et la visitation, il n'y a pas l'espace d'inverser. Ce qui est significatif, qu'il n'y a pas l'espace au niveau théologique et spirituel entre l'un et l'autre. La vraie question pour les visiteurs malades, ce n'est pas qu'est-ce que je vais dire, mais comment j'ai accueilli la visitation de Dieu dans ma vie, du Seigneur dans ma vie. Quel déplacement ça opère en moi, quel consentement. Ça l'enfante en moi. Et ce qui jaillit de là est porteur d'autre chose que moi, de quelqu'un d'autre que moi. Et c'est lui qui fait porter à la rencontre une fécondité. Pour moi, c'est ça la pastorale de la santé, vraiment. Vraiment. Est-ce que j'ai parlé de sacrement des malades ou tout, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi? Je vais vous choquer, on s'en fout. Enfin, pardon, on s'en fout au sens où je vous en parle. Parce que ce n'est pas ce qui est premier. Ce qui est premier, c'est une qualité de rencontre au cœur de laquelle la présence parle. Ou s'efface pour laisser un autre parler. Vous êtes, enfin c'est ça, on doit être sacrement d'une présence qui est autre que la nôtre. Notre manière d'être présent à l'autre doit renvoyer à la présence de celui qui est le présent et qui est présent dans sa vie. Voilà. Et du coup, à l'intérieur de ça, oui, les choses viendront ou ne viendront pas, mais à un rythme, à un tempo qui ne sera jamais le nôtre, et heureusement. Et heureusement.
Je pensais juste à une petite anecdote racontée par le père Ledogard de Strasbourg, là, qui visite aussi au CHU de Strasbourg. Et qui disait, donc justement, qui donnait la préférence à l'humain et parlait d'un couple, donc le mari était sous haute surveillance, et vraiment l'extrême limite, et donc il parlait on lui avait dit que l'aumônier allait arriver, etc. Il dit, mais non, mais j'ai besoin d'uriner, etc. Et puis son épouse a dit, non, non, mais tu attends, l'aumônier va venir d'abord, etc. Alors l'aumônier est arrivé, elle dit, non, non, vous urinez d'abord, c'est le plus
Bien sûr.
important.
Bah, de toute façon, il n'y aurait pas eu rencontre. Hein. C'est tellement. Ça vous fait. Voilà, vous avez eu des rétentions urinaires déjà. Moi, j'en ai eu il n'y a pas longtemps. C'est la souffrance totale. Et puis, baratiner ce qu'il voudra, comme ma porte urinoire. Ouais. Voilà. C'est bien, ça travaille sa ligne.
Pour reprendre ce que vous dites, là, Charles de Foucault, c'est ce qu'il avait dit.
Exactement.
Il dit, c'est en apprenant à aimer les autres qu'on apprend à aimer Dieu. Et lui, c'était pas, il ne faisait pas de grands discours sur Jésus, c'était l'évangélisation à ras de la terre. Hein. C'est en apprenant à connaître les Touaregs, en les visitant, etc., qu'il a fait son évangélisation.
Et alors, ce qui est surprenant chez Charles de Foucault, c'est une vie qui a apparemment une voie à l'échec total, mais quelle fécondité! Si vous regardez le courant spirituel de Charles de Foucault, c'est hallucinant les congrégations, les associations de prêtres et tout, qui s'inspirent de la spiritualité de Charles de Foucault. Une très grande fécondité post-mortem. Hein, c'est l'enfouissement total.
Penser à Marthe Robin qui parlait avec les gens de leur béaba et de leur vie, et qui, dans la souffrance, quand on regarde le film, on entend dire il y avait une souffrance, à un moment elle était très malade, alors pourquoi ne pas supprimer tout ça, hein, pourquoi la laisser vivre, pourquoi? Et quelqu'un qui a dit après, si on avait supprimé les souffrances de Marthe Robin, il manquerait 87 foyers de charité dans le monde. Donc il y a eu une toile d'araignée là qui s'est faite avec une Marthe Robin qui était attentive à la vie des gens et qui écoutait les gens et qui faisait pas du gâté d'emblée.
Il faut aimer les gens. Regardez alors un autre épisode d'Évangile, puisque c'est quand même la parole de Dieu qui nous rassemble, les disciples d'Emmaüs. Si vous regardez à l'état cru les choses, voilà deux types. Alors il y en a un qui est nommé, l'autre il n'a pas de nom, c'est-à-dire c'est chacun il met son prénom, et qui foutent le camp là, de Jérusalem, qui est lieu de la présence de Dieu quand même dans la mentalité juive de l'époque. Et puis voilà Jésus qui arrive. Méthode nouvelle évangélisation un peu agressive. Et les gars, vous plantez complètement, hein. Je suis là. Je suis ressuscité. Jérusalem, c'est de l'autre côté. On retourne. Qu'a fait Jésus? Aucune affirmation, que des questions. Et chemin faisant, en allant avec eux dans la mauvaise direction, il s'est planté avec eux. Il a fait chemin avec eux. Il ne rassemblait aucune certitude. Il a simplement éclairé à partir d'un questionnement. Et arrivé là-bas, c'est reste avec nous. Donc, on demande de compagnonnage plus profond. Et ils l'ont reconnu, bon, il s'est barré. C'est fort. Non pas en fonction de la tête, mais d'une expérience vécue. Ça, c'est quand on réfléchit au test, je vous dis rapidement les choses, mais c'est un texte qui est d'une profondeur mais abyssale, ce texte. Mais c'est impressionnant pour nous. Je veux dire, il est allé dans le mauvais sens, quoi, avec eux. Il a fait la route à l'envers. Et la réponse, il l'avait, puisqu'il était là. Il n'avait qu'à montrer qui il était. Il n'avait qu'à le dire. Sauf qu'il l'aurait reçu avec la tête, mais le cœur n'était pas prêt à recevoir. Et la religion, c'est une relation. Ouais. Là, ils ont tenté de faire un chemin d'alliance avec lui. Voilà. Il n'a rien imposé, il s'est fait éveilleur. Et ce qui est intéressant pour nous, il n'a pas vu les résultats. Nous, on a besoin de voir les résultats, ça nous rassure, c'est très humain, hein. Mais autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne, etc. On peut se rappeler plein de paroles de l'Évangile, là c'est en l'occurrence c'est Paul, mais c'est vrai. Ouais. Ouais. Et puis ça moissonne peut-être ailleurs. C'est la communion des saints. C'est bon? On y go?
Juste encore,
Ouais.
ce matin, vous disiez que les jeunes attendent des discours d'alliance. Enfin, je pense que j'ai à peu près compris la phrase. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'aborder avec nos jeunes?
Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que les jeunes ont un besoin de sens, une quête de sens. Alors bon, ça m'amène sur un autre sujet, mais ça va revenir dessus. Qu'est-ce qui donne sens? Prenez la fin de vie. La fin de vie, c'est un lieu où on a besoin éminemment de sens, dans ce qu'il y a de plus profond, plus humain. Pourquoi moi? Et qu'est-ce qu'il y a après? Vous pouvez prendre la meilleure catéchiste du monde qui en a parlé toute sa vie, elle va passer par les doutes aussi à ce moment-là. C'est, on te passe de avoir la foi à devenir croyant. Bon, qu'est-ce qui va aider? Qu'est-ce qui va aider? Vous vous rappelez là, ce qui était là pour Job? Job était dans le non-sens. La question spirituelle, c'est une question de sens. Hein. Le manque de dimension spirituelle fait qu'on est en manque de sens. Et on s'aperçoit que souvent, c'est pas ce qu'on va dire, parce que là on reste sur la théorie, mais c'est ce qu'une présence va éveiller en l'autre. Il y a une communion qui se vit. Et à travers la communion, qui peut durer, si c'est une présence qui dure, de rencontre en rencontre, il y a quelque chose d'imperceptible qui parle, qui passe, qui se passe. On est éveillé, mais l'un et l'autre, hein, celui qui vit et celui qui est visité, on est éveillé dans la dimension la plus profonde que nous avons en nous. On devient vivant, et en devenant vivant, il y a un sens qui est donné. Ce qui donne sens, c'est de vivre une présence, une rencontre. Une rencontre qui est source de communion et par là une fécondité. Je reviens toujours sur les mêmes thèmes. Ce qui donne sens à la vie, c'est cette capacité à s'ouvrir un chemin dans l'alliance, qui après ouvre à une communion, parce que c'est une alliance et donc une fécondité. Et donc une croissance dans l'humain, dans ce qu'il y a de plus profond. C'est notre désir infini, spirituel, qui peu à peu trouve réponse, chemin faisant. Là, vous pouvez apporter toutes les... C'est Élu, hein. Et Élu avec Job, c'est ce qu'il a fait. Il n'a fait que poser des questions. Voilà. Que poser des questions. Et il a décentré Job de lui-même pour l'ouvrir à une alliance avec Dieu, et lui, il s'est effacé. Et dans le cœur à cœur avec Dieu, où enfin Job s'est mis à écouter Dieu, il n'écoutait pas, il demandait que Dieu l'écoute, et il a enfin mis dans ses questionnements. Il s'est décentré de lui-même, il s'est ouvert à Dieu, et au cœur d'une alliance, il a vécu une expérience mystique, une expérience de Dieu, et ça a donné sens à tout. Et du coup, il a reçu une nouvelle fécondité, qui est à l'inverse de l'autre, et qui est doublée. Bon, non, c'était plus lui qui maîtrisait les choses. Voilà. Donc, de quoi ont besoin, juste de manière générale, de quoi ont besoin nos jeunes? Ils sont dans une société matérialiste qui est caractérisée par le non-sens. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas de sens. Elle ne peut pas donner de sens parce qu'elle se situe à un niveau purement matériel. Elle gomme tout ce qui est dimension spirituelle. Et bien, les jeunes, et puis, ça génère forcément... l'individualisme total, donc la rupture de toute alliance. On instrumentalise l'autre pour une efficience. Et c'est l'humain qui morfle à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on retrouve un lieu où on peut vivre la gratuité, de la communion, de l'alliance, etc., c'est comme ça qu'on parle aux jeunes. C'est vivre cette qualité de rencontre, d'alliance avec eux. Alors, qu'est-ce que vive l'alliance? Je suis en train de rédiger un truc là-dessus, mais comment Dieu fait alliance avec nous? C'est un thème qu'on pourrait développer, mais c'est passionnant. Et ça aide. Il commence par écouter, pour entendre. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai connu les souffrances de mon peuple, et c'est pour ça que je suis descendu. Il fait exode, il sort de lui-même, c'est le Christ. Ouais. Après, il rentre dans la gratuité. Il nous a aimés. Il se met à égalité. Qu'est-ce que l'homme pour que tu l'aies fait un peu moins qu'un Dieu? Et comme il y a encore un décalage entre les deux, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et il entre en dialogue avec l'homme. Ouais, quand on réfléchit à tout ça, c'est incroyable. Et c'est de ça, donc fondamentalement, l'homme a besoin. Et le jeune d'aujourd'hui a besoin de ça. Parce que vous retrouvez partout, les dialogues parents-enfants souvent c'est heurté, parce que le dialogue de couple est souvent heurté, parce que la société, on leur demande uniquement que de produire, d'être mobile, de ne pas avoir de race. C'est tout ça. Et comment alors parler aux jeunes? Il ne s'agit pas tant forcément de leur parler d'abord, mais d'avoir une qualité de présence. Voilà, qualité de présence. Ce que je crois que c'est avec quelqu'un, je disais ça tout à l'heure, quand on est hospitalisé, ben je vois, dans une matinée, on passe son temps à recevoir du monde, qui pour une piqûre, qui pour ranger la salle, qui pour faire une prise de sang, qui pour prendre l'attention, qui pour faire le staff médical, qui pour vous demander si vous avez des médicaments, ça n'arrête pas. Et tout d'un coup, paf, le monde y vient et c'est gratuit. on vient pour rien. Je viens de dire bonjour. Mais ça, ça parle. Ça parle. Dans un monde aujourd'hui où tout est instrumentalisé pour de l'efficience, de générer de la gratuité dans une qualité de rencontre, de prendre le temps de la rencontre et de se laisser rencontrer par l'autre et ne pas l'instrumentaliser pour des projets, je pense que ça parle aussi. Je sais pas, ouais, c'est en vrac ce que je vous dis, mais... Une qualité de présence, ouais. Être à l'autre. Ouais, je vous ai raconté à vous comment on dit bonjour en Afrique et bonjour en France. Ouais, c'est ma façon de relire l'Annonciation. Ouais, donc j'ai vécu en Afrique, hein, au Burkina Faso. Et j'y suis retourné encore en janvier. Bon, je prends un exemple très concret. J'avais un ami qui était à Draguignan, j'étais curé de Draguignan. Il me dit, écoute, j'aimerais bien avec toi, il était président de Rotary, faire une action. Dans ton village. Mon village, c'était les Guémas. Alors, pour vous dire un peu les choses, Bobo Dioulasso et les Guémas, c'est 15 km, on remonte un siècle en arrière, quoi. Et voilà, bon, ben, je dis, écoute, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un forage à les Guémas. Il n'y a pas l'eau courante, bien sûr, pas l'électricité, etc. Voilà. Bon. Alors, français, comment il fait le français? Ben, il va au village, il va voir le responsable, il dit, écoutez, là, j'ai un ami qui est en France et il voudrait faire un projet, est-ce qu'on peut le construire? Il prend les choses en main, quoi. À l'africaine. Je vais là-bas. Bon, j'ai prévenu mon arrivée. On commence par s'asseoir sur un petit banc improbable. Et puis la calebasse éclos circule. C'est comme on lave les pieds en Orient, on fait circuler une calebasse, l'eau de l'étranger. Chacun boit une gorgée dans la calebasse. Ben oui, la poussière de la route. Et après, donc ça dure un moment. Et puis il y a un jeune qui vient me voir et qui se met un genou en terre, le plus jeune, et il me dit, voilà, est-ce que la traversée, c'est-à-dire les 15 km, ça m'aurait 3 quarts d'heure les 15 km quand même. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que, oui, est-ce que les parents vont bien? Est-ce que les activités vont bien? Est-ce que, plein de choses. On ne me demande pas pourquoi je suis venu. Donc je réponds, il va voir l'ancien, et puis il met un genou en terre, il explique à l'ancien. Et l'ancien se lève. Il explique à tout le monde, voilà, notre frère Philippe est venu, la traversée s'est bien passée, les parents vont bien, les activités vont bien. Là, là, là. Alors vous pensez que maintenant vous allez cracher votre forage, que nenni. Et on prend la calebasse, chacun la sienne, et on va au dolo. Le dolo, c'est de la bière de mille. Et on y va. L'affaire a duré quand même une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Voilà. Et puis, au bout d'un certain temps, l'ancien se lève et au fait, Philippe, mon ami, tu es venu nous voir, peut-être que tu as quelque chose à nous dire. Bien, vous voyez, vous ne direz jamais la chose de la même façon, parce que vous avez pris le temps de vous ajuster de personne à personne. Voilà. Et là, la parole peut vous être laissée rejoindre par eux et vous et eux par vous, et la parole devient médiatrice de quelque chose. Ouais. Vous voyez, là-bas, pour dire les choses de manière courte, je dis que là-bas, nous, c'est le temps qui mesure tout, parce que time is money, le temps que vous ne remplissez pas, c'est du temps perdu qui coûte. Là-bas, c'est l'événement qui mesure le temps. Bien, alors, il faudrait prendre un milieu entre les deux, mais je me dis que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de retrouver que l'événement peut mesurer le temps, et qu'on a le temps, il faut perdre du temps. Moi, je dis souvent aux couples, perdez du temps. Perdez du temps avec vos enfants aussi. Le temps que vous perdez, c'est le signe de l'amour. Aimer, c'est la gratuité. Si le temps est toujours monnayé pour un but, il n'y a pas d'amour. Bien, les jeunes ont besoin de ça. La pastorale doit être animée par ça. Si vous allez les voir pour les convaincre que Jésus les a aimés, la meilleure façon de les convaincre que Jésus les aime, c'est de les aimer. Et les aimer, c'est de perdre du temps avec eux et de vous laisser rejoindre par eux parce qu'eux aussi ont quelque chose à vous dire. Ouais, c'est un peu en vrac, mais vous voyez mon truc? Ouais. Mais c'est ça, faire alliance, voilà, pour moi. Faire alliance. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... Et c'est un autre thème. En pastoral de la santé, à Toulon, j'avais fait une formation là-dessus, c'est passer de la relation à la rencontre et donc de la fécondité... De l'efficacité à la fécondité. Ouais. C'est bon, c'est bon, l'heure.
On est juste dans le temps. Juste dans le temps.
Je meuble les choses pour arriver dans le timing. Voilà, donc là, je rebondis sur la question que tu avais posée tout à l'heure. Donc vous avez le parcours, ça va, c'est à peu près clair. Quelle est la soif? Donc je dis, c'est une rencontre de deux soifs. La soif que Dieu a de nous et la soif que nous avons. C'est un besoin de vie, une vie qui nous est donnée et une vie à accueillir qui comble nos besoins profonds. On a vu que ce désir de vie, ce désir infini, qui est un désir de transfiguration, déification, qui est un passage de l'image à la ressemblance, devenir ce que nous sommes, devenir enfant, ce désir, cette dynamique est tiraillée entre deux polarités, l'amour de soi qui saisit ce désir infini pour le retourner sur nous, sur le fini, et c'est une dynamique de mort, hein, dans la convoitise pour le corps, dans la volonté de puissance et la colère pour l'âme, et dans l'orgueil pour l'intelligence, hein, l'auto-déification. À l'inverse, si je consens à l'alliance, alors c'est tout un autre horizon qui s'ouvre, un horizon de vie. Juste pour faire court, mais quand vous regardez le Abraham qui s'en va, qui part sur la parole de Dieu, et Lot qui s'en va avec lui, Abraham part en alliance, et Lot part pour une raison purement humaine, c'est qu'il est le neveu. Ça donne deux trajectoires qui n'ont rien à voir. Une trajectoire de vie d'un côté, non sans aléa, sans combat, puisque le combat on l'a tous, et l'autre, c'est une dynamique de mort. Sodome, Gomorre, etc. Ouais, c'est tout bête, hein, mais quand on a ces clés pour rentrer dans la parole de Dieu, Moïse, quand il délie la première fois, c'est humain, la deuxième fois, c'est divin. C'est seul ou en alliance. Ça éclaire plein de textes et d'histoires. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'éclaire. Donc, on arrive au Christ. Le Christ, je vous ai dit, c'est lui qui nous touche dans les sacrements. On a vu le besoin de l'homme, ce besoin de vie. Maintenant, comment le Christ donne vie à l'humain et comment il va me rejoindre dans les sacrements pour justement rejoindre ce désir de vie qui est en moi. Bah, tout commence par cette affirmation incroyable de Jean, le Verbe s'est fait chair. Alors encore, faut-il bien entendre cette expression. La chair, je vous dis, plus ou moins, on peut dire plus ou moins, mais ce n'est pas complètement vrai, mais on peut prendre ça comme corps. Ça dit la personne dans sa visibilité, hein, dans son inscription, c'est la personne qui se donne à voir, avec des nuances différentes entre Paul et Jean. Chez Paul, c'est comme en littérature, hein, pour savoir le sens d'un mot, il faut le situer dans le contexte d'une œuvre et d'une culture. Chez Paul, la chair s'oppose à l'esprit, donc c'est l'humain qui se veut seul, source de lui-même, l'auto-édification, ça conduit à la mort. Pour Jean, la chair désigne l'humain tout simplement. Et donc, quand on dit Dieu, c'est le Verbe, s'est fait chair, ça ne veut pas dire qu'il a pris de la viande. Excusez-moi, quand on dit ceci est le corps du Christ, c'est-à-dire ceci est l'humanité ressuscitée, transfigurée du Christ. L'humanité pascalisée du Christ. Voilà. Et bien, c'est Jésus, c'est ce Verbe qui prend une humanité comme la mienne. Comme la mienne, et qu'est-ce que ça veut dire comme la mienne? C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple. Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Et toujours Hébreux 4, 15. Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable à l'exception du péché. Éprouvé en tout, le mot est fort, éprouvé en tout. Donc il n'a pas pris une nature humaine pour répondre à la question qui soit déjà au top. Il n'a pas pris une nature humaine qui est déjà aboutie. Il a pris une nature humaine qui est en germe, en chemin. Et quand on y réfléchit, c'est incroyable. Dieu a vécu ça, quoi. Dieu a vécu ça dans son humanité. C'est pas une humanité qui est une enveloppe, qui est à côté. C'est sa personne, qui est personne humaine dans sa nature humaine. Regardez ce qui est dit dans Luc 2, 51, quant à lui, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors il y a une objection qui tout de suite vient et qui nous dit, mais attendez, réfléchissons un peu. Si on dit que Jésus est un... Vous savez, la définition du caté, là, deux personnes, une nature. Hein, il y a la divinité, l'humanité et l'humain qui sont unis dans la même personne divine. Alors comprenez que si elles sont unies comme ça, quand deux côtés d'un angle unis par un point, à la limite, elles n'ont rien à voir. Ça va ? Comprenez ? Ça n'a rien à voir et chacune grandit de chacun de son côté. Sauf que Paul nous a dit, et quand il écrit aux Colossiens, où est-ce que c'est mon texte ? En lui, il dit-il, Colossiens 2,9, en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Corporellement. Donc, normalement, sa nature humaine aurait dû être, mais complètement transfigurée par sa nature divine. C'est incompréhensible que ça n'ait pas eu lieu dès le départ, quand on réfléchit vraiment. La clé, elle est où ? Comment comprendre ce mystère incroyable ? C'est Paul qui nous le dit encore dans la lettre aux Philippiens 2, vous savez, 2, 6, 11. Lui qui, de condition divine qu'il était, il s'est vidé lui-même de lui-même, devenant homme parmi les hommes, esclave, reconnu comme esclave, etc. Ça va ? Vous avez le texte ou faut que je le lise ? C'est bon. Je lis. Allez, je lis. Pas de problème. Voilà, 2. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave. Alors, dépouillé, il y a plusieurs façons de traduire, mais j'aime beaucoup cette traduction. J'ai jamais revu où je l'avais trouvé, mais il s'est vidé lui-même de lui-même. C'est fort. Devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect, à sa forme en grec, comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur... Il n'a pas revendiqué d'être l'égal de Dieu. Il n'a pas arrêté d'être Dieu, puisqu'il est Dieu. Sa nature divine, ça n'a rien touché. Mais ça veut dire qu'il a... Normalement, son humanité aurait dû être irradiée par la gloire de Dieu, et ça, il y a renoncé. Sinon, son chemin n'aurait pas été humain. Puisqu'il aurait une nature humaine déjà saisie par l'Esprit, par la gloire de Dieu. Il n'aurait pas fait chemin avec nous, or il a été en tout semblable à nous. Il a éprouvé tout sauf le péché. Il a grandi en sagesse. Ça veut dire, quand on réfléchit, ça nous dit à quel point Dieu aime l'homme. Hein, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, c'est pas pour rien, quoi. Ça veut dire qu'il a renoncé à l'irradiation par la gloire divine de son humanité, ce qui aurait dû être l'état normal, pour pouvoir faire chemin en vérité avec l'homme. Et donc, il a vécu ce chemin de passage de l'image à la ressemblance dans son humanité, bien sûr. Sinon, son humanité n'a rien à voir avec la mienne. Ce que disent les pères de l'Église, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si Dieu n'a pas assumé mon chemin dans le Christ, mon chemin n'est pas sauvé. Ce qui donne ma grande force à ma vie chrétienne, c'est que je sais qu'en lui, je peux faire mon chemin parce qu'il l'a fait pour moi. Et bien sûr, et on verra, c'est les sacrements, c'est ça. Ça va ou pas ? Voilà, c'est important de bien, bien, bien le saisir, ce que je vous dis là. Parce qu'on a tendance, vous voyez, dans l'imaginaire chrétien, l'homme, il est pécheur, il est dans les tréfonds des abysses, et Dieu, il y a une humanité qui est angélique, qui est... on ne sait pas trop comment dire, quoi. Mais qui, en fait, le rapport, c'est quoi ? Tout. Ce qu'on appelle la kénose, ici, là. Il a ce renoncement qui fait, dès le début, anticipe la mort sur la croix. D'ailleurs, c'est ce que dit bien Paul, il fait le lien entre les deux. Voilà. Alors, après, vous pouvez vous dire, mais si on veut aller plus loin, on peut dire, après tout, oui, il a fait ça dans son humanité, mais la mienne. Quel est son rapport avec la mienne ? C'est pas qu'un modèle, vous comprenez ? C'est plus qu'un modèle. Quand Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ce n'est pas un modèle que je vais regarder puis je vais essayer de reproduire dans ma vie. Ouais, les exégètes disent chez Jean « Comme » ça veut dire « L'amour dont le Père m'a aimé, il l'a mis en moi. » Et c'est de cet amour-là qui est celui du Père pour moi, qui est en moi, qu'il m'a donné. Je vous aime de cet amour, je le mets en vous. Et cet amour que je mets en vous, qui est l'amour que le Père m'a donné, dans lequel il m'aime, vous devez vous aimer les uns les autres de cet amour. Vous le donnez, vous, les uns les autres. Et donc, le rapport avec l'humanité du Christ, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Et Paul a pu le dire dans la lettre aux Éphésiens, il a tout récapitulé dans le Christ, tout récapitulé. C'est-à-dire ressaisi dans le Christ. Mon humanité est dans son humanité. Oui, nos humanités, elles sont réduites, hein, elles sont... Alors, on est tous des merveilles, hein, on s'entend bien, mais des merveilles qui sont réduites à ce que nous sommes, parce que je suis Paul, Pierre, Jacques, Jean, Agnès, Brigitte, tout ce que vous voudrez. Mais l'humanité de Jésus, c'est une humanité qui n'est pas close. Elle vit dans le Fils de Dieu. Dans son humanité, il y a tout l'humain. Et plus que tout l'humain, Paul dira, il y a toute la création. Parce que là, je ne vous parle que de l'humain, mais ce que je vous dis, c'est toute la création, en fait. Hein. Dans son humanité, il y a mon humanité. C'est déjà là. C'est vécu en lui. Alors qu'est-ce qu'il a vécu? Il a eu le baptême. L'Esprit Saint a posé sur lui. L'Esprit Saint tient. Rappelez l'Esprit. Alliance. Premier geste, qu'est-ce qui se passe? Il sort du Jourdain, poussé, pressé par l'Esprit, nous dit Marc. Il va au désert. Et Luc nous détaille les tentations. Et à la fin des tentations, il nous dit aussi, c'est guidé par l'Esprit Saint qu'il a vécu ces tentations. À la fin des tentations, il nous dit, ayant épuisé toutes les tentations. C'est curieux, il n'y en a que trois. Mais vous regardez quoi? La première, c'est quoi? Les pierres changées en pain. C'est le corps, la convoitise. La deuxième, du haut de la montagne, regarde tout ce qu'il y a là. Si tu te soumets, je te donnerai pouvoir. C'est le mot qui est employé sur tout cela. C'est l'âme. Troisième, pinacle du temple, jette-toi si tu es le fils de Dieu. C'est la prétention à être fils de Dieu par soi-même. C'est l'orgueil. Que fait Jésus? Donc il prend une humanité comme la mienne, qui comme la mienne a à faire ce choix entre la vie dans l'esprit en alliance et la vie dans la chair. Dans la glaise, où je prétends être mon roi à moi, mon Dieu à moi. Qu'a fait Jésus? Rien d'autre que d'opposer la parole du Père, le Père. Il se situe en alliance. Donc vous voyez, il prend mon humanité, et dans son humanité fait le choix du Père. Il fait le choix du Père. Dans son humanité fait le choix d'une vie en alliance avec le Père, pour remettre le corps, l'âme, la divinité, pour remettre tout l'humain en alliance. Et donc, en vie, en chemin de vie, en chemin de transfiguration. Ça va? C'est bon, après un repas, ça va. Hein. Et après, au pied de la croix, toujours chez Luc, qu'est-ce qui se passe? Trois tentations aussi. Il y a d'abord les chefs religieux. Religieux, ah, intelligence. Si tu es fils de Dieu, descends de ta croix, tatada. Ensuite, il y a les soldats. Soldats, le pouvoir, l'âme. Si tu es le fils de Dieu. Troisième, c'est le brigand. Les deux là, il y en a un. Les brigands, c'est l'avoir, c'est le corps. Si tu es fils de Dieu. Que répond Jésus? Il encadre ça comment? Il vient de dire... Père, si c'est possible que ce calice soit l'un de moi, ça c'est sa chair qui se rebute, son humanité qui concrètement se récuse, a envie de dire non, et il dit que ta volonté, non pas ma volonté, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc il consent profondément à vivre ce chemin de passion en alliance. Et à la fin, Père, en tes mains, je remets mon esprit. On retrouve la même chose, en alliance. Ces deux récits de tentation encadrent toute la vie publique de Jésus. Toute la vie publique de Jésus, c'est pour reprendre l'humain et le remettre en chemin de vie, en alliance avec le Père. Et au milieu de tout ça, il y a quoi? Ça nous rappelle le but? La transfiguration. La transfiguration. Qui nous dit que, au cœur de ce combat, le but, c'est la transfiguration. Alors vous dites, mais vous sortez ça d'où? Regardez la liturgie du carême. Le carême, on a commencé comment? Le mercredi décembre, on a écouté le discours du sermon de Jésus sur la montagne. Non, sur, oui, sur, la montagne, qui nous dit quoi ? Trois choses, Jésus. Et le carême, l'Église nous dit, c'est le carême, c'est ça le chemin. Tu jeûnes. Quand tu jeûnes, tu le fais dans le secret de ton Père, qui est en secret. Hein ? Tu fais l'aumône. L'aumône, c'est quoi ? Toute la tradition orientale le dit. L'aumône, c'est pour soigner la colère et la volonté de puissance. Le jeûne, ça soigne le corps. L'aumône, ça soigne l'âme. Parce que dans l'aumône, je mets en compassion, donc je lutte contre la colère, et j'affirme que l'autre est mon égal, que j'ai aucun pouvoir sur lui. Voilà, je partage. Et après la prière, pareil, tu le fais en secret, c'est l'intelligence. Et le premier, et après, on nous dit, il y a un choix à faire, c'est le jeudi après les cendres, c'est le Deutéronome, fais un choix. Ou tu choisis d'écouter, et tu vivras, ou tu refuses d'écouter, tu mourras. Ouais, tout ça, c'est la Bible est traversée par ça. Premier dimanche de carême, c'est quoi ? Récit des tentations. Ce chemin qu'on te propose, Jésus l'a fait pour toi. Vis avec lui. Et d'ailleurs, on te dit le but. Deuxième dimanche de carême, c'est la transfiguration. Voilà, c'est ça le but. Donc vis ton carême, qui est un raccourci de toute la vie chrétienne. Ça va ? Ben, c'est beau, vous savez, c'est beau. Voilà. Et donc, comprenez que dans le Christ, la vocation humaine est réalisée. L'humanité du Christ a vécu ce choix à faire. Il l'a vécu dans son sang, dans son humanité, dans sa chair au plus intime de lui-même, dans toutes les dimensions de l'être humain, corps, âme, intelligence, dans une soumission non sans combat, et l'agonie nous le rappelle, et Luc nous dit, il a sué du sang, pour le triomphe de la croix et le tombeau. Le tombeau, la résurrection, avec un corps transfiguré, saisi dans l'esprit, corps ressuscité. Ça va ? Oui.
Vous pourriez rapidement reprendre les trois, l'aumône qui...
Alors, il y a le corps, dans l'ordre, c'est le jeûne, ensuite la prière, le jeûne, ça soigne c'est le corps. Dans sa lutte contre la convoitise. Et là, il y a toute la spiritualité orientale qui nous rappelle. Il nous dit, vous pouvez vouloir prier si vous ne maîtrisez pas le jeûne et rapport à la bouffe, après une bonne bouffe qu'on a eue, c'est bon de le dire, il ne faut pas espérer prier, quoi. Voilà. On aura le cas ici tout à l'heure, on va essayer de prier. Ensuite, il dit la prière, ça c'est pour l'intelligence, bien sûr, et ensuite l'aumône. L'aumône, les pères de l'Église disaient, dans l'aumône, c'est la compassion. Donc c'est ce refus de... Et puis en même temps, je dis que l'autre est mon égal. C'est le refus de volonté de puissance sur l'autre. Bon, c'est l'âme. Et ça soigne la colère. Dont on a vu que c'est la passion de l'âme. Et là, toutes les passions... Voilà. Et tout ça, à chaque fois, on me dit, tu le fais dans le secret, ton père. Donc c'est en alliance qu'on vit. Ton père qui est en secret te le revaudra. Mais quand on regarde, c'est extraordinaire tout ça. Voilà. Et après, vous avez à la fin, vous avez le mystère pascal. Oui, j'aime beaucoup la façon dont Jean parle du mystère pascal. Parce que, et c'est ce qu'on a entendu dimanche dernier, l'évangile est magnifique, il est colossal cet évangile. Mais vous avez, on se dit toujours, bon, les trois synoptiques nous ont parlé de l'agonie et de la transfiguration. Hein, ça va ? Et Jean, apparemment, il n'en parle pas. Le génie de Jean, c'est d'en avoir parlé les deux en même temps, en deux versets. C'est incroyable ça. Jean 12... 12, je retrouve le texte. Comme c'est pas ma Bible, c'est ça. Maintenant, mon âme est troublée. On retrouve l'agonie. Hein. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vint alors une voix. Je l'ai glorifié et de nouveau je glorifierai. Non, c'est court, hein. il y a deux versets. Donc voilà, on voit très bien Jésus dans son humanité devant un choix. Jean 12, 27-28. Son humanité devant un choix. Un choix qu'une toute humanité refuse. Enfin, sans la difficulté à consentir. Donc, Père, si c'est possible... Père, sauve-moi de cette heure. Et que dire ? Oui. C'est pour cela que je suis venu à cette heure. Donc il y a un consentement. Mais en même temps, et c'est ça qui est prodigieux chez Jean, cette humanité en consentant se sent en même temps fragile. Père, glorifie ton nom. Alors glorifie ton nom, le nom c'est l'être même de la personne. C'est-à-dire que ta gloire, ton esprit, tout ça, que ça m'irradie pour que ce consentement soit ferme et aille jusqu'au bout. Et la réponse du Père qui s'adresse à nous est prodigieuse. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. C'est-à-dire que ce chemin dans l'esprit, cette gloire, elle a commencé. Elle a commencé déjà là, et ça va éclater au tombeau, et la croix va être le trône de la gloire chez Jean. La croix est un trône chez Jean. C'est la royauté qui éclate dans la rédaction. Alors, après, je vais vous dire un truc, mais vous n'êtes pas obligé de le noter, mais qui, pour moi, me paraît important. Souvent, vous savez, l'épisode à Cana. À Cana. Il y a Marie qui se tourne vers Jésus et dit, écoute, ils n'ont plus de vin, c'est tragique, le truc. Et Jésus, alors souvent, on traduit, mais mon heure n'est pas encore venue. Il y a des exégètes de plus en plus nombreux qui disent, c'est pas la bonne traduction. Et ils donnent une autre traduction qui existe depuis le début de l'histoire de l'Église. Mon heure n'est-elle pas venue ? Et on nous dit que, juste après, qu'ainsi manifesta-t-il sa gloire. Donc c'est très intéressant, ça encadre l'évangile de Jean, et ça demande que ce chemin dont je vous ai parlé, ce chemin de combat, de choix que Jésus a vécu dans son humanité, est un chemin de renoncement à une Pâque, un renoncement à une vie selon uniquement l'humain, pour vivre tout jusqu'au bout dans une alliance avec le Père, et que ce chemin est un chemin de transfiguration. Et que ça a commencé là. Ouais. Donc vraiment, son humanité me concerne au plus profond. Et pour moi, le chemin est possible, puisqu'il l'a fait dans son humanité, que je sens vraiment qu'elle est comme la mienne.
Oui, mais Jésus n'était pas pécheur. Il n'avait pas à lutter, ni à prendre conscience... de mauvais choix parce qu'on est pécheur et qu'on n'a pas conscience ni de notre péché ni de mauvais choix qu'on fait.
Alors là, il y a beaucoup de choses. Jésus a eu à combattre, oui, bah là, c'est qu'à lire. Il a sué de son sang.
Sentir, mais il avait un cœur pur, il restait de cœur pur.
Ouais, mais ça n'a pas été sans lutte, quoi. Il a un combat qu'il a vécu dans sa chair jusqu'au bout. Il a tué en nous, dans son humanité, il a tué les racines même du mal, quoi. Après, à nous d'y consentir. Ouais. Et quand vous réfléchissez, c'est incroyable jusqu'où Dieu peut aller pour rejoindre l'homme. Et ce qu'on disait ce matin, on a évoqué, hein, c'est Saint-Augustin qui disait, si carrément tu as été froid à aimer, comment ne pas désormais aimer celui qui t'a tant aimé ? Quand on réalise jusqu'où ça allait, ben, c'est pas pour faire semblant qu'il nous a aimés. Quoi. Ouais. Et avec comment le mystère pascal éclaire toute la vie de Jésus ? C'est quoi le baptême ? On arrive au sacrement. Ça nous greffe sur Jésus dans son mystère pascal. Ouais. La vie est une Pâque continuelle. On doit passer de la mort à la vie, de la vie sur la chair à la vie dans l'esprit. Mais c'est notre combat de tous les jours, ça.
Choix de tous les jours.
C'est tous les jours qu'on a à faire ce choix. Et c'est jamais acquis. Voilà, la Pâque est la condition de vie normale du chrétien. Je regarde en même temps. C'est un... Ça va pour ça ? Je regarde mes trucs comme je saute de mes notes. Voilà, donc là, je vous ai situé le Christ. Donc, comprenez ce que le premier point que j'ai voulu développer ce matin, c'était quel est le désir de vie qui nous habite. Donc, j'essaie de vous le montrer, qui se réalise qu'en alliance, au cœur d'un choix, et donc d'une Pâque. Renoncer à une vie sans la chair, sans la glaise, pour une vie dans l'esprit. En alliance. Ça ne se fait pas sans combat. Et l'histoire biblique nous le montre, prenez Abraham, Moïse et puis tant d'autres, Élie, prenez Élie, enfin tous. Jésus, le Père, envoie son Fils qui prend une nature humaine en tout point sauf le péché, en tout point sauf le péché, comme la nôtre. Et son humanité fait le chemin, qui est le chemin de tout homme, un passage de l'image à la ressemblance, confronté comme tout homme au choix à faire dans sa chair, non sans combat. Et tout le temps, Jésus a privilégié la relation d'alliance. Regardez dans Jean, il est sans arrêt tourné vers le Père, tourné vers le Père. Tac, tac, Luc aussi. Voilà, c'est la clé de compréhension de l'âme de Jésus. Il va jusqu'au bout de cette logique, c'est-à-dire qu'il va nous rejoindre, nous repêcher dans là où nous mène la logique de mort, il va habiter la mort par l'alliance. Et c'est le triomphe de la glorification. La gloire qui éclate sur la croix et la résurrection. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, dans son humanité, mon humanité déjà l'a vécu. Il me reste à le vivre maintenant. Comment le vivre ? En étant greffé sur le Christ, bien entendu. Alors, avant d'attaquer cette dernière partie, je vous dis quelques paroles de psaume. Le psaume 41, verset 2. « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ?» Ça parle. 62, 2. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Ça dit la soif. Pour la soif, prenez encore l'évangile de Jean, un autre encadrement de l'évangile de Jean, vous en avez parlé ce matin. La Samaritaine qui vient avec sa soif, mais qui est en trompe-l'œil, elle a détourné la soif profonde qu'elle habite, qui est signifiée par ses cinq maris qu'elle a eus. Donc aucun n'arrive à épuiser sa soif profonde. Voilà, on retrouve des choses que je dis ce matin. Et elle avait un symbole avec sa cruche vide. Et Jésus lui dit qu'il a soif. Donne-moi de cette eau. Donne-moi à boire. L'évangile à la fin de Jean, sur la croix, j'ai soif. Alors c'est un geste comme Jean, toujours il y a un fait historique, c'est quand on meurt sur une croix, on a une sudation terrible, et donc ça provoque une soif irrépressible, et puis du coup on trempait un trompe-l'œil, une éponge d'une boisson vinaigrée, et puis on... Mais chez Jean, tout fait historique a une dimension symbolique aussi. Dieu a soif. Il crie la soif de Dieu. Dans le Christ, c'est la soif de Dieu qui crie à l'homme. La soif de Dieu encadre toute la vie publique de Jésus dans Jean. Voilà. Ça nous dit la soif de Dieu. Et qui vient rejoindre nos soifs à travers cette cruche vide. L'Église. L'Église, elle jaillit de la croix. Le cœur transpercé, et d'où l'eau jaillit, et l'eau, c'est, prenez l'évangile de Jean, c'est l'esprit. Elle naît chez Jean, le don de la Pentecôte commence sur la croix, et après il souffle l'esprit à l'apparition des faits à ses disciples. Chez Luc, c'est au début des actes des apôtres, mais le résultat est le même, l'Église naît là-dedans. Et l'Église, avec cet esprit du Christ, nous rend le Christ présent dans nos vies. Alors c'est là que se situent les sacrements. Les sacrements, vous avez ce qu'on appelle les sacrements d'initiation. On a perdu un peu le sens des choses. Les trois sacrements qui, dans l'ordre normal des choses, c'est baptême, confirmation, eucharistie, si on parle en termes d'initiation. C'est-à-dire qu'il nous fait rentrer dedans. L'initiation, moi j'ai vécu ça. Bon, je n'ai pas vécu l'initiation, mais j'en ai vu en Afrique. C'est ce qui intègre dans le corps. Ce qui m'intègre au Christ, c'est d'abord le sacrement du baptême. Qu'est-ce que le baptême ? Romains 6. Alors, Romains 6. Papier Bible, c'est génial, sauf que c'est compliqué à tourner de manière juste. Si nous sommes... Nous avons tous donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans cette vie nouvelle. Voilà. Le baptême nous greffe sur le Christ dans son mystère pascal qui, comme je vous l'ai expliqué, est le cœur même de la vie du Christ. Voilà, le baptême me greffe sur le Christ. Son humanité et mon humanité ne font qu'un, à tel point que l'Église est le corps du Christ. Paul aux Corinthiens. Et donc, si je suis greffé sur le Christ, dans l'humanité duquel mon humanité a déjà vécu cette Pâque, ce passage de l'image à la ressemblance, je peux, par lui, avec lui, en lui, vivre ce chemin. Et pour ça, j'ai besoin de son esprit. Guidé par l'esprit. C'est la confirmation qui est le complément. Ce n'était pas détaché autrefois. On l'a détaché historiquement parce qu'il y avait tellement de baptêmes. On réservait à l'évêque, comme maintenant toujours, l'acte ultime d'initiation à l'église locale, qui est l'évêque, autour de l'évêque. Donc c'est lui qui faisait l'onction finale. Quand il y a plein de baptêmes, ça a été séparé. Mais avant, la confirmation était l'aboutissement du rite premier d'initiation qui était le baptême. Par le baptême, je suis greffé sur le Christ. Par la confirmation, son esprit m'est donné pour, par lui, avec lui et en lui, vivre ce chemin et poser des choix qui me font devenir ce que je suis, passer de l'image à la ressemblance. Ça va ? C'est bon ? Et la condition de vie du chrétien greffé sur le Christ avec son esprit, c'est quoi la condition ? C'est Pâques. C'est le chemin pascal, passage au quotidien de la mort à la vie. L'Eucharistie, communion au mystère pascal du Christ, me fait passer au quotidien de la mort à la vie. Ouais, là, vous êtes dans la condition profonde du chrétien. Et comprenez que dans son corps à corps, là, qui se joue dans le sacrement, il y a mon besoin de vie. Ce passage, cette divinisation, cette transfiguration, cette vie dans l'esprit, cette vie en alliance, qui vient se laisser toucher. En allant toucher, comme cette femme qui vient toucher le manteau, l'humanité du Christ qui a déjà vécu, qui est une humanité pascalisée, transfigurée, vient me toucher pour que le flux de vie vienne combler mon flux de vie qui part à l'extérieur, quoi. Vient me rendre vivant. Ça va ? Oui, là, il y a quelque chose d'extrêmement beau là aussi. C'est ça, c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous décortiquer les sacrements. Pour moi, ça fait partir à côté de l'essentiel. Ce qui se joue fondamentalement dans un sacrement, c'est ça. Se toucher. Et dans ce toucher, c'est un échange de vie. Tu vois, c'est dans l'ouverture accueil que je fais de moi-même, c'est ça être croyant, je reçois le flux qui sort de Jésus, qui m'a touché. Et cette vie est une vie pascale qui m'aide à vivre ce chemin qu'il a vécu dans son humanité, qui est abouti. Voilà, le chemin est possible pour moi. Après, les autres sacrements m'accompagnent dans l'engagement. Après, ben, cette vie, je quitte l'alliance en revenant sans arrêt à la chair, c'est notre quotidien. Le sacrement de l'alliance, de réconciliation, le sacrement de pénitence, est un sacrement de réconciliation. On renoue les fils de l'alliance. Je dis au Père, en quoi j'ai manqué à l'alliance, dans la relation avec lui, avec l'autre, avec moi-même. Là où je devais vivre en alliance, j'ai vécu avec moi-même. J'ai préféré l'amour de moi à l'amour d'alliance que tu me proposes, dans telle situation, et on renoue l'alliance, dans les trois dimensions. Cette alliance, je dois la vivre dans le sacrement de mariage, qui précisément est un sacrement qui rend visible l'alliance entre Dieu et l'homme. Et dans le sacrement du sacerdoce, qui est témoin, qui aide à rendre présent le Christ époux de l'épouse. Et au moment d'une maladie qui peut entraîner la fin, je suis greffé de manière toute particulière dans le mystère pascal par le sacrement des malades. Pour vivre cette grâce de consentement jusqu'au bout dans l'esprit. Et pouvoir dire Père en témoin de mon esprit, Père, pardonne-leur, ça passe ce qu'ils font. Et de vivre toutes ces réconciliations profondes sur les trois facettes de l'alliance que j'ai à vivre. Voilà. Ainsi, comprenez que les sept sacrements que nous avons sont autant de touchés du Christ qui permettent de transmettre à mon humanité ce qui a déjà été vécu dans son humanité. Ce que Paul dira à la fin, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui. Mon humanité est peu à peu saisie par l'esprit du Christ, qui est l'esprit de l'alliance, qui est l'esprit que vous avez dans la Genèse, insufflé par les narines. Ça va ? C'est un compact que je vous fais là. Mais moi, j'aime bien montrer les synthèses. Vous voyez, ce que je trouve, c'est quand on décortique trop, on perd la sève souvent. Mais de montrer là une espèce de synthèse qui montre ce qui se joue vraiment en profondeur. Alors, je regarde si j'ai marqué d'autres trucs. Ouais, alors comprenez la phrase de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, ça vous pète à la figure, excusez-moi du terme. Il est le chemin. Ben oui. Le chemin, celui par qui mon chemin est possible. La vérité, c'est pas la vérité grecque, abstraite, on adhère à des dogmes, à des doctrines. Non, il est celui qui est dans le chemin par lequel je peux faire la vérité dans ma vie. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et donc par là, chemin, vérité, et donc vie, dans l'esprit, je deviens vivant. Oui, tout se tient. Tout se tient. Ça va? Là, je vous ai assommé. C'est bon? Ah, c'est dense. Ouais, genre, j'ai un gros défaut, je ne sais pas délayer. Excusez-moi, là, comme on dit en Afrique, au Burkina, il faut me faire pardon. Et je ne sais pas délayer, je suis un très mauvais délayeur. Donc, ce qui fait que ça rassure mes paroissiens, parce que je ne dépasse jamais 10 minutes quand je prêche. Mais après, ils sont bombardés. Alors, le micro. Ouais, les trois sacrements d'initiation. Vous voyez, l'initiation, alors je reprends le thème d'initiation. Les rites initiatiques sont ceux qui vous intègrent dans un clan. Hein, vous passez d'un âge à un autre. Traduit en. Alors c'est très beau parce que quand j'étais en Afrique, là, le sacrement, le carême qui conduit à Pâques est traditionnellement pascal, baptismal aussi. Parce que, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées avec vous. Et les catéchumènes suivaient des rites initiatiques chrétiens. C'est-à-dire qu'ils vivaient les étapes de baptême comme un rite initiatique, comme ils vivent encore dans leur clan. Hein. Là, moi, les rites initiatiques, je les ai vécus, hein, je les ai vus. Hein. C'est, voilà. C'est très beau, du coup, ça parle. Donc le baptême m'intègre au corps du Christ. Voilà, hein, m'intègre au corps du Christ, mais pas n'importe quoi. Dans ce pourquoi j'ai à être intégré, c'est dans le mystère pascal. Ce passage. Passage à la fois d'une vie sans la chair à une vie dans l'esprit, pour vivre la Pâque, le passage de l'image à la ressemblance.
Ça, c'est la confirmation.
Non, la confirmation me donne de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'elle me donne l'esprit du Christ qui me permet de passer, de vivre des choix. Hein, je vous ai dit, passer l'image à la ressemblance, c'est poser des choix qui me font devenir ce que je suis, comme analogiquement. Je pose des choix qui m'humanisent ou me déshumanisent. Donc dans l'esprit, et c'est pour ça qu'on dit c'est le sacrement des adultes, c'est de la responsabilité. Ça rend adulte, c'est le sacrement de la responsabilité. C'est où je pose des actes dans ma personne qui me permettent de vivre dans l'esprit du Christ, et donc de vivre ce passage. Et ça, c'est au quotidien que j'ai à le vivre. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? C'est la mémoire de la Pâque du Christ. C'est pas que de la mort, c'est pas de la résurrection, c'est de la Pâque du Christ. Donc je communie, je fais qu'un avec la Pâque du Christ pour qu'il vive en moi cette Pâque au quotidien et qu'il devienne ma Pâque à moi. Vous voyez, c'est un défaut qu'on a, c'est que souvent on dit « il est mort, puis il est ressuscité ». Jean révolutionne tout ça en vous disant « il a commencé à ressusciter depuis le début et quand il est ressuscité, Jésus nous montre les plaies du crucifié ». Voilà. Sont deux facettes du même mystère. Je disais ça tout à l'heure à quelques-uns d'entre vous, la vie chrétienne, ce n'est pas une morale, c'est un mystère de transfiguration qui naît sur la mort à nous-mêmes, c'est-à-dire la mort à cet amour de nous-mêmes désordonné que nous avons, c'est-à-dire cette prétention à nous autosuffire, l'amour de soi dont j'ai parlé tout à l'heure.
Confirmation est donnée une fois pour toutes.
Ouais.
À un âge où on n'est pas toujours pleinement conscient de ce à quoi on s'engage. Et moi, je trouve qu'on aurait de temps en temps besoin de le refuser.
Alors, oui. Alors, c'est vrai que sur la question de la confirmation, l'Église latine et l'Église grecque n'ont pas la même approche. L'Église latine, qui est marquée par l'esprit latin, est une mentalité pragmatique, etc. On part du bas, et donc on a dit il faut attendre qu'ils soient en âge de pouvoir faire des choix par eux-mêmes. Donc on a attendu, et pastoralement, ça permet de garder... Et moi, j'ai adhéré à ce schéma, hein, je dis, mais en gros, pour ceux qui ne pratiquent pas, on fait faire la première communion en CM1, profession de foi en 6e, confirmation en 4e. Tous les ans, on a une dragée, quoi. Pastoralement, ça se défend. Maintenant, du point de vue mystagogique, c'est révélation du mystère, dépendant du mystère, c'est pas tout à fait juste. Et les orientaux donnent le baptême et la confirmation en même temps, ce qui théologiquement est le plus juste. À mon sens, hein. Je ne dis pas qu'il faille le faire. Mais ça rend mieux compte de ce que je viens de vous expliquer. C'est que comme la nature et la personne ne font qu'un, le baptême et la confirmation ne font qu'un. Voilà. Et la confirmation me donne de pouvoir devenir ce que je suis dans le Christ, parce que c'est l'Esprit du Christ qui m'est donné. Voilà, mais j'ai fini 5 minutes plus tôt.
Là, on aurait à parler aussi tout du discernement spirituel.
Alors, on va peut-être...
Justement, par rapport à l'esprit, par rapport...
Ouais. Alors, vous savez, c'est discernement spirituel, vous avez relisé les Galates, Galates 5, sur les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Alors, c'est une première approche du discernement spirituel, mais vous avez tous les fruits de la chair, les fruits de l'esprit. Quand vous prenez une décision, voyez où ça vous porte, qu'est-ce que ça procure en vous, ça vous permet de discerner. Galates 5, je ne sais plus combien. 5. À partir du verset 13. Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair. Mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres, car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez en vous dévorant et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire. Or, je dis, laissez-vous mener par l'esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. C'est tout ce que je vous ai dit. Hein. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais, si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et autres choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Vous retrouvez tout ce qui décrit l'alliance avec l'autre, avec vous-même, avec Dieu. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ, qui ont été baptisés, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. On est mort. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Voilà, ça résume tout ce qu'on a vu. Voilà, le discernement, c'est un truc pratique. Vous voyez, concrètement, dans la relation que je vis avec quelqu'un, c'est une relation d'alliance ou pas? Comment savoir? Comment Dieu fait alliance avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, pour le voir, regardez, est-ce que ça conduit à la dissension, ou à la paix, à la confiance, ou à la défiance, etc. etc. Vous voyez, reprenez ce texte de Paul. Ça peut aider énormément. Galates 5, que je vous ai dit combien? 13 et suivante. Voilà, vous avez du temps pour vous, pour les questions, mais peut-être que vous êtes un peu matraqué et vous avez besoin d'un temps pour digérer. Je suis désolé pour le côté compact, hein, mais ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas faire autrement. Hein.
De toute façon, ça sera à reprendre. Il y a les notes que vous avez prises et puis
on verra. C'est enregistré. Et vous voyez, après, vous pouvez, comme on l'a fait, ça a été évoqué par les questions. Ça éclaire mais grandement la pastorale, bon, toute pastorale, hein, toute évangélisation, mais dans ce qui est votre mission, quoi, là, auprès des malades, quoi, ça éclaire beaucoup de choses, je pense. Il est écart, hein, ouais, c'est bon.
Non, plus de réactions, plus de questions. Bon. On va encore le voir.
Oui, une question là.
Ah.
S'il vous plaît, pourriez-vous nous reparler de votre cercle avec les mots qui sont à la fois la convoitise, élan, force, humilité.
Voilà.
Je n'ai pas très bien compris.
D'accord. Pourquoi correspondait. D'accord. Merci. Donc on a, alors ce qui est supposé, c'est qu'on est habité au plus profond de nous-mêmes par ce désir de vie dont je vous ai parlé, qui est un désir de transfiguration, de déification. Ça va, ça ? Ce désir peut être emparé par l'amour de soi, hein, c'est la glaise, hein, ça va ? Ou la vie dans la chair, ou par l'amour de Dieu, ça va ? Ce désir, de manière neutre, quand il n'est pas saisi ni d'un côté ni de l'autre, et dans le corps, c'est le désir. Si ce désir est saisi par l'amour de soi, ça devient de la convoitise, je désire pour moi. Si c'est par l'amour de Dieu, je désire pour l'autre. C'est un élan. Ça va ? Ensuite, l'ardeur, hein, cette force d'âme, prenez un terme plus proche de nous. Si c'est par l'amour de soi, c'est la colère. Pourquoi ? Parce que l'ardeur, quand elle est pour soi, je vais avoir puissance sur l'autre, pouvoir sur l'autre pour moi. Et quand ça me résiste, c'est la colère. Quand c'est vers Dieu, c'est une force pour continuer dans ce combat spirituel. Force d'âme. Quand c'est l'intelligence, cette puissance de vie, c'est la raison. Je vous expliquais la paraison, la raison résonante. Et le terme, il est là parce que c'est ce qu'emploient les pères de l'Église. Pour eux, ils n'identifiaient pas la raison et l'intelligence. Mais parce que ça donne la raison des choses, de comprendre la raison spirituelle des choses, le pourquoi, comment la création reflète la gloire de Dieu. Eh bien, si c'est par l'amour de soi, je capte tout pour moi. Et c'est l'auto-édification, c'est l'orgueil. Dieu par moi-même. Si c'est au contraire dans l'amour de Dieu, tout me vient de Dieu et c'est l'humilité. Je me fais réceptivité. Ça va ?
Mais la colère, c'est pas toujours parce qu'on n'obtient pas ce qu'on voudrait. Ça peut être aussi par rapport à l'injustice, à la violence, au mal.
La colère de Jésus avec les vendeurs du temple.
Est-ce qu'on perçoit comme étant du mal contre soi-même aussi ? On a souhaité par désir faire du bien à quelqu'un, puis ça ne se retourne pas en bien contre nous. Bon, il y a différentes formes de colère. Pas uniquement
ouais.
De...
Là, on parle de la, remarquez, passion en vertu, on parle de la colère passionnelle. C'est la colère passionnelle où c'est moi qui me mets au centre. Ouais. Quand Jésus se met en colère contre les vendeurs du temple, c'est pour le zèle de Dieu. C'est parce que cette maison, qui est une maison... En fait, il détourne l'objet du culte pour eux, pour l'avoir. Et donc, il réoriente vers. Ouais, là, je parle de la colère passionnelle. Oui, bien sûr, j'entends
après,
ce que
c'est
vous. Ouais, ouais, voilà. Ça, alors après, voilà.
Les colères, en fait, parce qu'on a subi, vrai ou pas vrai, mais des injustices, de la violence.
Là, le critère, vous voyez, c'est la paix intérieure. Le critère, je reviens, quel esprit, c'est du discernement, quel esprit vous mène. Alors c'est un chemin, attention. C'est pas je décrète, donc c'est fait, quoi. Mais Paul nous le dit, Galates, paix, joie, longanimité, confiance. Est-ce que c'est ça que je ressens après ce moment de colère ou pas ? Alors c'est tout est mélangé. Hein. Et puis c'est comme ceux qui disent, je suis chrétien, je dois pardonner, donc j'ai pardonné. C'est la meilleure façon pour jamais pardonner. Le pardon, c'est un chemin. Et si ça vous prend en trip, il faut du temps, voire des années, pour le faire vraiment. La vie est un chemin. C'est pas je me cale sur une ordonnance extérieure. Voilà.
C'est ça, la vie chrétienne, ça consiste pas à se cramponner à des règlements, c'est ça.
Vous savez, alors je vous ai fait entrevoir les trucs, comment le religieux et le spirituel sont ordonnés. C'est-à-dire que la vocation du religieux, c'est d'être un chemin pour réaliser notre dimension spirituelle. Hein. Les gens, les chrétiens, comme on les appelait au début, réalisaient les actes des apôtres, les gens de la voie. Jésus nous dit, je suis la voie, je suis le chemin. Mais c'est vrai de toutes les religions. Vous allez chez la tariqa, les confréries soufistes en islam, c'est des confréries pour la voie, pour vivre le chemin. Prenez le véhicule dans le bouddhisme ou la voie dans le taoïsme. Une religion en tant que telle est un chemin. Le problème, c'est quand je retire la dimension spirituelle de la religion, quand j'identifie le spirituel au religieux, je fais du religieux une finalité. Qu'est-ce qui se passe ? La religion, c'est le lieu, je vous l'ai montré, d'alliance avec le Christ. Croire, c'est... On croit au Christ, c'est je vis en alliance avec le Christ, qui est célébré et dont j'essaye de vivre. Les trois dimensions de la religion, croire, célébrer, vivre. Si je retire cette dimension spirituelle, j'adhère à des formules, je célèbre un rituel et je vis une vie morale. C'est le lit de tous les intégrismes. L'intégrisme, c'est la religion qui se dit le spirituel, qui se fait but alors qu'elle n'est que moyen. Dans toute religion, c'est ça. Nos intégrismes cathos ou l'intégrisme musulman, c'est la même chose. Alors je dis ça aux intégristes, vous êtes de bons musulmans, alors vous comprenez quand on leur dit ça à eux, c'est... Mais c'est exactement ça. On leur dit ce qu'il faut faire. L'évangile, François, dérange, parce qu'il nous dit l'évangile. L'évangile dérange. Il ne vous dit pas ce qu'il faut faire, il vous dit ce que vous devez être pour que vous puissiez inventer votre chemin. Je vous ai dit, les 10 paroles sont toutes en négatif. Il n'y en a que 2 en positif, c'est le sabbat et le honorer père et mère. Donc il y a une relation des 2. Mais ça dit que du négatif au négatif, ça ne dit pas comment, ce qu'il faut faire. Ça veut dire que si vous dépassez ces bornes, vous retrouvez les idoles de l'Égypte. Donc vous retrouvez la vie dans la chair, la vie d'esclavage. Et vous mourrez. Donc si vous voulez vivre, il faut rester dans l'entre-deux. Mais ça, c'est à vous de l'inventer. Mais je ne vous laisse pas l'inventer tout seul, je fais alliance avec vous. Et on fait chemin ensemble. C'est comme le code de la route, le stop, il vous dit de vous arrêter, le panneau vous dit voilà une direction, mais après c'est vous qui appuyez sur le moteur, qui prenez le volant, qui faites les choses que vous avez à faire. Vous pouvez ne pas le respecter, mais c'est en danger de mort. Après, pour aller à Rome, vous pouvez prendre le chemin que vous voulez. Vous pouvez passer par la Suède. Eh ben oui. Ouais, c'est quand même beau. C'est toute la Bible, je dis bien toute la Bible, pas que le Nouveau Testament, toute la Bible nous dit que Dieu croit en l'homme, croit la liberté de l'homme. Et il lui demande de croire autant que lui croit en nous. C'est tout, de faire alliance comme il fait alliance avec nous. Alors ça fait peur dans le monde d'aujourd'hui, et vous voyez toutes ces rigidifications qu'on peut voir, c'est des mouvements de peur, on existe par procuration. L'évangile, c'est croire à la liberté. Et le François dérange parce qu'il nous rappelle l'évangile. Moi, j'ai un oncle que j'aime beaucoup. Mais il a 93 ans, donc il a eu la religion qu'il a eue. Mais je l'admire beaucoup parce que c'est un homme... Bon, bref. Et il me dit, « Ah, ton pape me dérange. » Mais c'est quand même un peu le tien aussi. Mais je lui dis, « Tu sais, c'est l'évangile qui te dérange, en fait. » Ah, arrête. Ben oui, l'évangile est dérangeant, que voulez-vous. C'est tellement plus facile de vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Regardez le caté, quand on fait le commentaire des commandements, quand vous êtes autrefois, bon, vous dites tout ce qu'il fallait faire, sauf qu'au moment, ils ne disent jamais ce qu'il faut faire. Ils vous disent ce qu'il ne faut pas faire. C'est quand même dingue. Ouais. Enfin, voilà. J'arrête, hein, parce que là, je suis en train de démystifier plein de trucs.